Vous écoutez RMC. RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Et on commence, Charles, avec le candidat du jour.
Gabriel Attal, qui vient d'officialiser, c'était il y a quelques minutes, sa candidature pour la présidentielle 2027.
C'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que, oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
C'était en Aveyron, un petit village médiéval, avant de déguster un aligot, nous a raconté notre reporter sur place. Objectif, casser son image de candidat des grandes villes, avec un modèle en tête, selon son entourage, Jacques Chirac.
Ouais, alors c'est pas tout à fait la même chose. J'ai l'impression que Fred Hermel se mouille la nuque, là.
Ah non, il n'y a pas de cheveux. Non, mais en fait, il n'y a pas des conseillers auprès de ce genre-là. En fait, c'est,
pourquoi ?
Ça sonne faux.
Mais ça sonne qu'il fasse, il n'allait pas se mettre dans le 7e arrondissement de Paris.
Il est tellement parigot, etc., mais qu'il assume, parce que là, en plus, le petit village médiéval de l'Aveyron, avec le café-tabac derrière. Enfin, je veux dire, l'image d'Épinal, mais c'est.
Et le boulot à brocante.
C'est-à-dire.
Il va mettre un béret et chercher une baguette.
C'est-à-dire qu'entre le 7e arrondissement de Paris et le petit village de l'Aveyron, il y a un des trucs intermédiaires.
Oui, bien sûr.
Tu peux aller dans une ville moyenne, par exemple, déjà, tu vois. Non, mais par exemple, mais tu peux aller à Arras, tu peux aller à Tours, tu peux aller, tu vois, pour pas avoir l'air trop parisien. Mais là, en fait, ça sonne faux. Mais je ne comprends pas tous ces types très bien payés, très intelligents, qui ont fait 10 fois plus d'études que moi, et qu'il y en a aucun qui est capable de dire, ça va se voir, Gabriel, ça va se voir.
Mais est-ce qu'il y a un espace, Gabriel Attal, là aujourd'hui, Elise Goldfarb?
Moi, je pense qu'il a tout à fait un espace, mais que, comme a dit Fred, tout va dépendre de sa stratégie. Parce que Gabriel Attal, je sais pas si vous avez remarqué, mais là, on se dit, il est dans l'Aveyron et tout, mais il fait une tournée en France depuis un an. Si vous observez bien les déplacements de Gabriel Attal, ça fait un an qu'il est en tournée dans plein de petits patelins, plein de petits villages. Donc, il veut se rapprocher des Français. Donc, on comprend qu'il veut se présenter à la présidentielle.
Ah oui, ça, on avait bien compris. Oui, je crois que ça nous avait pas échappé.
Je pense que c'est un candidat qui peut incarner une génération, qui va incarner les enjeux d'IA, d'écologie, de féminisme, de LGBT-phobie, que les autres candidats n'incarnent pas à ce jour. Donc, il a quelque chose à jouer. D'accord? Maintenant, est-ce qu'il va y arriver? La stratégie actuelle.
Est-ce que ça joue en mangeant un aligot saucisse dans l'Aveyron? Est-ce que ça, c'est vraiment Gabriel Attal?
Non, il va devoir bien s'entourer. Ouais. Et là, pour l'instant, je pense qu'il y a du temps.
Mais les Français, ils aiment l'authentique.
Oui, oui.
La force de Jacques Chirac, alors. Peut-être que c'était de la com aussi, Jacques
non,
Chirac.
Non, pas du tout.
Mais c'est qu'on y croyait.
Il est vraiment. C'était un Parisien.
Mais il est de province, attendez.
Mais justement.
D'accord, mais enfin, excuse-moi, il avait des attaches en Corrèze. Pardon, son grand-père était corrézien.
Il avait ça, mais le truc, c'est que il était très Parisien. Il avait su s'implanter là-bas, mais il était sincère.
Si Gabriel Attal était
dans la manière de serrer, de serrer les pinces,
sa femme était corrézienne. Enfin, il y avait vraiment des
attaches. Entre son arrivée en Corrèze et sa candidature en 95, il y a 20-30 ans.
Gabriel Attal,
il veut faire ça en accéléré. Parce qu'il a été plus jeune Premier ministre, il veut être plus jeune candidat, plus jeune président.
C'est juste qu'il a été ministre de l'Agriculture aussi, c'est pas le cas de Gabriel Attal.
C'est juste,
il avait fait ses classes.
C'est juste qu'on veut quelqu'un qui s'assume et que même si c'est un mec du 7e, qui dise voilà, je suis un mec du 7e.
Exactement.
La France me tient à cœur. Voilà.
Jacques Legros, vous la voyez de quel œil cette candidature?
Bon, je suis assez d'accord sur le décorum. moi, j'aime bien le personnage de Gabriel Attal. Je crois que j'ai été un des premiers à le recevoir, une de ses premières télés dans le journal. Il avait peur, je me souviens. Et c'était quelqu'un de fort sympathique. Maintenant, moi, les politiques, je ne les fréquente pas par principe. Mais c'est vrai que Chirac, on évoquait Chirac. Chirac, il mettait la main au cul des vaches, quoi.
Mais bien sûr.
Je dis pas qu'il était complètement.
Il mangeait de la tête de veau.
Sincère.
Vraiment.
Mais il buvait de la bière comme un trou. Il mangeait de la tête de veau. Il faisait 12 repas au salon de l'agriculture.
Trompé, allez, comment ça
fait? C'est pas ça qui fait un bon président.
Mais c'est pas ça qui fait un bon président.
Évidemment.
Mais c'est là où il a fait crédible.
On parle de communication. En termes de communication, il savait faire, même s'il mentait, mais il savait faire.
Voilà. Vous savez que quand il était en campagne, il avait un seau à glace dans la voiture pour aller rafraîchir ses mains, tellement il serrait les mains et tellement il avait les mains irritées, tellement il serrait sincèrement les mains des gens.
Mais Gabriel Attal le fait. Je te dis, ça fait un an qu'il est en tournée en France.
Oui. Oui.
En Alsace la semaine dernière, dans des petits villages. Moi qui viens d'Alsace, j'ai vu les patelins où il est allé. Il se donne quand même.
Mais le problème, c'est est-ce que c'est vraiment Gabriel Attal? Est-ce que les petits villages, l'aligot saucisse, est-ce que c'est Gabriel Attal? En vrai, c'est vraiment pas l'image qu'on a de lui.
Si tu prétends vouloir être président, il faut quand même que tu ailles voir ces petits villages,
ouais, mais rencontrer
les Français.
Oui, mais il faut que tu restes sincère.
Il faut le faire sincèrement.
Mais, oui.
Mais est-ce que vous, on le sait, vous êtes dans la com, Élisabeth.
Oui, oui, oui.
Donc, en tant que communicante,
lui dire.
En tant que communicante, vous vous dites, est-ce que c'est une bonne entrée en matière ou pas?
Bah, je me tue à le dire, il lui faut des bons communicants.
D'accord. Ouais,
tu déposes ton CV.
En fait, il a un potentiel pour moi qui est énorme parce que la gauche ne le hait pas non plus.
Oui.
Et la droite non plus.
Non,
il n'est pas haï.
Bah, on sait pas tout à fait, il doit être vraiment centriste parce qu'on sait pas tout à fait s'il est de gauche,
c'est un ancien
de PS. Et puis après, je vais te dire, un centriste jeune, on a essayé, hein.
Ouais, mais il est pas pareil qu'Emmanuel Macron.
Oui, enfin, mais le style, on l'a un peu essayé en 2017.
C'est ça, oui, et la jeunesse, on l'a essayé aussi. Le refus du jour.
Le refus des sénateurs de travailler au-delà du 14 juillet. Gérard Larcher ne veut surtout pas qu'Emmanuel Macron demande au Sénat de siéger au-delà du 14 juillet, alors que justement le gouvernement s'apprête à demander une session extraordinaire du Parlement en juillet pour aller au-delà du 14. Le Sénat refuse. Gérard Larcher estime que les sénateurs ont besoin de temps pour pouvoir aller faire campagne en vue des élections sénatoriales qui auront lieu fin septembre. Pourtant, les dossiers, les lois sont nombreuses à s'empiler pour les sénateurs. Un projet de loi d'urgence agricole, projet de loi de programmation militaire, la loi sur la fin de vie, le logement, l'outre-mer, la Corse. Il y a embouteillage de lois, mais pas question d'aller au-delà du 14 juillet pour Gérard Larcher.
C'est vrai, pendant ce temps-là, les Français attendent. Ça vous choque, Jacques Legros ?
Oui, bien sûr. Mais on a aussi des politiques qu'on mérite, hein. C'est-à-dire, Et puis le mode d'élection des sénateurs n'a rien à voir avec les députés aussi, hein. Mais ce sont des notables, et les notables résonnent en notables. Avec des privilèges, de notables. Bon, bah la France s'est dotée d'une assemblée de notables. Elle l'a.
Ouais, mais c'est fou quand même, parce que je pense à la loi sur la fin de vie. Voilà, il y a plein de Français qui l'attendent. C'est un vrai changement de modèle de société. Et en fait, là, bah, donc, on patiente jusqu'en octobre parce que bon, bah voilà, on n'a pas envie de travailler après le 14 juillet. Mais ça paraît fou. Et en plus, pour des objectifs personnels. Parce que pardon, la France ne sera pas changée si on change de un ou deux sénateurs. Donc
Il y a un tiers du Sénat qui est élu ou réélu renouvelable en septembre prochain. Gérard Larcher dit. Vous savez qui élit les sénateurs, ce sont essentiellement des conseillers municipaux.
Exactement.
Et là, ils viennent d'avoir les municipales, donc beaucoup de conseillers municipaux nouveaux, etc. Il faut avoir le temps d'aller les rencontrer. Quand vous voulez être élu sénateur, je sais pas, dans l'Aisne, eh ben, il y a 30 000 nouveaux conseillers municipaux à rencontrer. Donc, ça fait de la route, ça fait du temps. Et il dit,
c'est un objectif personnel.
Dans cette phrase. Il dit, de toute façon, après le 14 juillet, on légifère très mal en général.
C'est juste, de toute façon, les sieste, pour Saint-Barth.
On fait la sieste au soleil.
Ouais, voilà.
Moi, je trouve ça dommage parce que moi, j'aime bien le Sénat. C'est-à-dire qu'il est souvent dénigré. Et il y a eu des projets, hein, des discussions de suppression du Sénat. Moi, je suis pas d'accord. Parce que je pense que c'est un contrepoids à l'Assemblée nationale. Et vu, ce qu'on a pu voir à l'Assemblée nationale et la baisse de niveau, je pense que c'était plutôt du côté du Sénat que.
C'est pas une critique du Sénat.
Non, non, mais je veux dire, c'est-à-dire qu'ils font du mal à l'image d'un Sénat qui est très utile. Moi, je me rappelle de certaines commissions d'enquête. De commission parlementaire, pardon, du Sénat était excellente. Sur l'affaire Benalla, par exemple. Philippe Gras, Philippe Brun. Et on se rendait compte que le Sénat était très utile. Mmh. Et c'est dommage, par genre de déclaration, de jeter le doute sur l'utilité de cette chambre.
Ça vous choque, Élise Goffard ?
Mais oui, ça me choque. Enfin, en fait, je me dis, mais stop. On va déjà tellement mal. On est déjà tellement en défiance de nos institutions que quand Gérard Larcher, il dit après le 14 juillet, on légifère mal, c'est juste parce qu'ils ont tous des billets pour aller à Biarritz, en vrai. Parce que moi, quand je vais à Biarritz l'été, je les croise tous, les sénateurs. C'est vraiment une destination de vacances.
Que vous les connaissez, peut-être.
Bah, je vous jure je les croise dans mes destinations de vacances.
Il fait du paddle.
Et parce que moi, je suis une grosse glandeuse l'été. Parce que je ne gère pas des affaires d'État. Mais ça va, ils sont très bien payés. Par nous, ils sont vieux, ils sont pas élus par le peuple.
Si.
Ils sont pas élus directement, mais ils sont élus par le peuple.
Indirectement, mais bon.
Ah bah non, mais ils sont élus par le peuple.
Pour moi, c'est moi, je n'aime pas ce mode de. Bon, bref, c'est pas une question, c'est pas la question. Mais arrêtez. Vous pouvez pas nous sortir le truc des vacances alors qu'en fait l'État est à feu et à sang et que l'État administratif du pays est catastrophique.
Mais leur siège est en jeu et ils n'auront plus que ça en tête à partir de.
Et puis la fin de vie, on attendra 2029.
On va pas retarder la fin de vie parce qu'ils veulent aller à Saint-Barth.
Ça paraît fou quand même. Le magasin du jour.
L'enseigne Lefties, enseigne espagnole de prêt-à-porter qui vient d'inaugurer hier son tout premier magasin en France dans l'Essonne. Cette marque à bas prix qui appartient en fait au même groupe que Zara, Pull&Bear. Lidl ou Bershka. Lefties veut se faire en fait une place entre Chine et les magasins Primark quelque part, parce que ce sera par exemple moins de 4 euros pour un t-shirt basique, 8 euros la paire de chaussures, 10 euros le sac, oui, 12 euros la chemise femme, 7 euros le pyjama enfant, 15,99 pour un jean ou encore 13 euros pour une lampe de chevet, car ils font aussi des objets de déco.
Ah.
Bref, et ce sont des magasins en fait avec uniquement des caisses automatiques où tous les coûts sont réduits au maximum.
Fred Hermel, on s'en réjouit ou pas? Vous connaissez cette marque?
Oui, je connais. Moi, j'aime bien faire.
D'accord. Alors,
j'aime bien, enfin, parce que c'est.
Mais là, c'est la version.
Et là, c'est quand même c'est la version low cost. Et automatiquement, qui dit low cost dit pas des produits fabriqués en Europe. Hein, parce que ça va, il y a quand même beaucoup, beaucoup de produits fabriqués. Au Portugal, par exemple, ça va, il y a beaucoup de Portugal.
Oui, c'est vrai.
Beaucoup de Portugal, voilà. Et celui-là, c'est l'Europe. Donc, pour moi, ça ne me gêne pas. Mais là, automatiquement, quand on fait les t-shirts à 3 euros, ben, ça ne peut pas être fait à côté, quoi. Donc, voilà. Après, ils sont très connus, je crois, si je me souviens bien, ils sont sur la Grande Via, qui est la grande avenue de Madrid. Ils sont très présents, etc. Mais. Voilà, mais il y aura un public pour ça. Hein. C'est très coloré, en fait, c'est très facile à acheter.
Ce que ça dit du marché, c'est qu'il y a plus de magasins de moyenne gamme.
Non.
Ce qui survit dans les boutiques aujourd'hui, c'est soit les Louis Vuitton, etc. Tout ça, il y en a partout et il y a des ouvertures. Et les seules ouvertures de magasins, en effet, c'est Primark, c'est aujourd'hui Lefties. Mais il n'y a plus la place pour tout le prêt-à-porter. Zara, typiquement, est en difficulté à l'inverse parce que ça devient trop cher. Et donc, c'est soit très bas de gamme, soit très haut de gamme, mais il n'y a plus le milieu de gamme quand on veut s'habiller.
Est-ce que vous allez voir dans ces magasins, on avait discuté une fois, Jacques Leroux, parce que vous aviez acheté chez Chine pour voir justement ce que ça donnait. D'ailleurs, on ne sait pas ce que sont devenues vos affaires Chine.
Elles vieillissent péniblement.
D'accord. Ok.
C'est il y a pas des si mots longtemps. De Jacques, ouais. Toujours merveilleux.
Ça va se terminer dans un relais. Vous savez, ça, c'est sûr. Est-ce que vous fréquentez ce type de magasin?
Non,
ou pas du tout.
Non.
Ok. Non. D'accord.
Non, je fréquente peu les magasins.
D'accord. Ok. Ok.
Sauf les miens.
Comment ça allez-vous?
Moi, j'ai mes petites marques à moi. Voilà.
Ah oui, écoutez, très bien, ouvrez vos magasins. Jacques Legros, il veut pas donner ses.
Ouais, c'est bon plan. Ouais, c'est comme c'est quoi un champignon, tu sais.
Ouais,
il a ses petits créateurs.
Exactement. Élise Goldfarb, on s'en réjouit ou pas?
Bah, c'est une catastrophe. Je comprends même pas que ce soit légal. Vous savez, on a fait quand même un sujet sur est-ce qu'on doit se réjouir qu'il fasse 35 degrés. Donc on s'est dit, non.
C'est pas de la faute de Lefties. Hein.
Bah si, en fait. C'est de la faute de Lefties. Parce qu'un t-shirt à 4 euros, comment tu fais pour le faire? Tu le fais faire par un esclave en Chine. Donc en fait, après, tu le fais venir par des stocks et des containers de la Chine ici. Donc tu pourris la planète. Et en plus, tu vends pas tes stocks et tu les renvoies au Bangladesh pour qu'ils soient brûlés dans des champs. Donc
c'est pas faux, ça.
C'est exactement
le
serpent qui se mord la queue. D'argent,
mais non, mais en permanence,
mais
c'est
ils
le serpent
ont le mérite d'ouvrir des magasins.
Mais je m'en fous, en fait. Ils ouvrent des magasins et ils détruisent qui derrière?
Mais ils vous payez des impôts.
Des entrepreneurs français. D'accord? Comme Bash, qui font du moyenne gamme. Comme.
Enfin, ils font du moyenne gamme cher. Pardon.
Mais attends, t'es allé chez Zara récemment?
Oui.
Moi, ça fait 6 ans que
je suis allée chez Zara. Je viens d'acheter un jean à 29 euros.
Je suis rentrée l'autre jour.
C'est pas le prix de Bash ou
non.
Bah, si, je viens d'acheter un jean, donc.
Mais attends, Zara, donc, qui est fabriqué par des esclaves, donc, qui prouve que là, ils peuvent fabriquer pour 2 balles.
C'est pas vrai.
Zara est épinglée depuis 6 ans.
Mais arrête.
Ils font fabriquer leurs vêtements par des Ouïghours, les gars, c'est officiel.
Mais arrête, mais en plus.
Épinglée par toutes les ONG.
Mais tu vas chez Zara, ils payent des impôts, il y a des salariés.
Malheureusement, une partie de leur chaîne de production est au Xinjiang, qui sont des esclaves, qui sont stérilisés de force dans des camps de concentration.
Mais d'accord, mais en tout cas, je veux dire que tu vas chez Zara, ton jean, il est à 30 euros, il n'est pas à 200 euros comme tu peux le trouver aujourd'hui dans ce que tu appelles les magasins moyenne gamme. Mais moi, si Bash, c'est magasin moyenne gamme, c'est pas possible.
Mais tu te
le jean niveau 190 euros, de quoi on parle en fait?
Je suis allée chez Zara, j'ai vu une veste à 200 euros.
Mais arrête, je viens aussi d'acheter un. Mais
c'est en fait, hyper cher, Zara.
La semaine dernière, j'ai acheté un jean, 29 euros.
On laisse,
d'accord,
on
et j'ai acheté
faire.
Une
on
veste.
On fait notre liste de courses. Et moi, la semaine dernière,
j'ai acheté
une
veste en cuir à 69 euros. Donc ne dis pas que, je veux dire,
c'est devenu cher. C'est devenu luxe.
Non, mais ne dis pas que Bash, c'est de la moyenne gamme. C'est pas vrai.
C'est considéré
c'est quasiment
comme
200
de la moyenne gamme.
Qui aujourd'hui peut mettre 200 euros dans un jean? Moi, je suis désolée.
Sur le site de Bash, c'est 250 euros en moyenne.
Il vaut mieux. Voilà. Mais attendez, excusez-moi, les amis, on a déjà eu cette discussion. Il vaut mieux mettre 200 euros dans un jean qui va te durer longtemps et qui n'est pas fait par un esclave que 4 euros dans un jean qui est fait par un esclave, en fait, et qui pourrit la planète.
Mais peut-être, mais en tout cas, il y a des gens aujourd'hui, je suis désolée, ils peuvent pas mettre 250 euros dans un jean. Et je vais te dire,
je ne
mets pas 250 euros dans un jean.
Estelle,
pardon.
Mais en fait, moi, j'en ai marre de ce discours. Je ne me suis pas acheté de vêtements depuis 2 ans. Qu'est-ce qui vous empêche de faire pareil?
Je préfère
m'acheter une fois un jean à 200 balles et après, j'achète plus rien pendant 2 ans.
Et on n'a pas le même âge. Et moi, il m'empêche que, tu sais, je vais t'expliquer. J'ai 49 ans et il se trouve qu'à 49 ans, enfants, les femmes elles prennent du poids. C'est ça t'arrivera aussi. C'est une période qui est pas forcément facile dans la vie des femmes. Et il se trouve que Medjine,
mais tu es très belle Estelle.
Et Medjine d'il y a 3 ans, je ne rentre
plus. Mais tu es très fraîche.
Voilà, et il y a plein de femmes qui ont 50 ans qui sont dans le même truc. Et il est hors de question que je me rachète 4 jeans à 250 €. Tu vois, voilà, et même si c'est pour faire travailler une petite marque française. Pardon, 250 € pour un jean, non. On ne peut pas payer ça. C'est pas normal en fait. Ce n'est pas normal.
Mais non, mais quand t'as un Levi's qui dure 50 ans à 100 balles, bah tu mets pas 250 balles dans une.
Bah oui, Levi's, non mais attends.
Bah oui, Levi's c'est 110 €.
C'est très bien Levi's.
Et ça dure toute la vie.
Si vous voulez, changeons d'exemple. Je préfère un jean Levi's que Inditex.